mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les nouvelles du monde, nous sommes le jeudi 20 février. Aujourd'hui, on va parler des discussions qui sont actuellement en cours à l'Assemblée au sujet d'une proposition de loi concernant l'interdiction des PFAS. On va parler aussi d'une autre décision de justice très attendue aujourd'hui, celle qui pourrait éventuellement amener à la libération de Georges Abdallah, le plus vieux prisonnier politique de France. On va parler de l'avenir de La Poste et d'un rapport de la Cour des comptes qui vient d'être remis sur sa non-efficacité, notre non-rentabilité suffisante en tout cas. Une loi contre la fast fashion aussi qui est toujours en discussion. Des nouveaux câbles au fond de l'océan pour Internet et des glaciers qui fondent. Tout va toujours pour le mieux dans le meilleur des mondes. Les PFAS donc, sont en ce moment même en train d'être discutés à l'Assemblée nationale. Vous pouvez d'ailleurs suivre les débats si vous le souhaitez sur la chaîne. C'est assez intéressant de voir un débat, un vrai débat en tout cas, qui a lieu. C'est une proposition de loi, donc une PPL qui va interdire les PFAS, PFAS, qui a été portée par les écologistes, devrait, si tout va bien, être adoptée aujourd'hui. Une réussite donc pour les écologistes notamment, qui ont mis en avant l'enjeu de la santé des consommateurs principalement pour faire avancer cette loi, et le sujet, il faut le rappeler, était encore inconnu du grand public il y a assez peu. Et c'est donc aussi l'occasion de faire un petit retour sur cette initiative et sur tout ce qui s'est passé au niveau médiatique, notamment pour faire basculer peut-être l'opinion publique. Alors pour ce qui se passe aujourd'hui déjà, on est dans une niche parlementaire, hein, ils ont droit à une par an, les députés écologistes, et donc ils ont inscrit cette proposition de loi à l'Assemblée nationale, ça veut dire que ça occupera toutes les discussions aujourd'hui. Et c'est donc en deuxième lecture que cette proposition de loi sera aujourd'hui discutée et soumise. Une proposition de loi qui vise à interdire la fabrication et la mise sur le marché des produits qui contiennent des per- et des polyfluoroalkylés, les molécules donc que maintenant on nomme sous l'acronyme plus connu PFAS, ou on utilisait aussi des fois l'expression polluant éternel. Ce texte, il date de 2022, il a été imaginé par le député de Gironde Nicolas Thierry, donc un député écologiste, et il a, on l'a dit, de bonnes chances d'être adopté définitivement. Les PFAS, on fait un petit rappel quand même, c'est que des composés qui sont présents dans une multitude d'objets du quotidien, ils sont plus de dizaines de milliers de ces molécules chimiques qui n'existent pas dans la nature, hein, qui sont vraiment issues de la synthèse de nos industries. On en retrouve dans les vêtements déperlants, jusqu'aux poils anti-adhésifs, bien évidemment, Tefal et Seb se sont notamment illustrés dans ce dossier, on va en reparler, en passant même par le papier toilette, paraît-il. Ils sont donc très prisés des industries pour leurs propriétés, notamment anti-adhésives, anti-taches et imperméabilisantes. Des espèces de petits procédés, de petites molécules magiques, mais qui ont malheureusement, justement, vu leur teneur et la durée de vie quasiment illimitée, beaucoup d'effets sur l'environnement et sur la santé. Elles sont terriblement persistantes puisqu'elles ne se dégradent pas dans l'environnement. Elles s'accumulent et elles migrent dans l'eau, la terre et l'air. À tel point d'ailleurs que des scientifiques en ont retrouvé jusque dans les tissus gras des ours polaires du Groenland, qui a priori n'utilisent pas de poils Tefal. Certaines études ont réussi à montrer que les PFAS nous rendent malades, hein, avec entre autres des effets néfastes sur la fertilité. Le taux de cholestérol, ça peut accroître le risque d'hypertension, les maladies thyroïdiennes ou encore le poids à la naissance. C'est un sujet qui a déjà été quand même pris, notamment aux États-Unis, avec assez de sérieux, avec le scandale du film qui a été révélé par le film Dark Waters en 2019. Et c'est une question sanitaire qui a été prise en compte dès la fin des années 90 là-bas. Et en France, on commence à peine à en parler. à l'exception de quelques collectifs de citoyens qui vivent près d'industries polluantes, notamment dans la vallée de la chimie dans le Rhône, quasiment personne ne connaissait l'acronyme PFAS en France il y a encore quelques années. Et j'ai cité le Rhône, mais vous savez aussi que je vous parle très souvent de l'usine d'Aquin qui était juste à côté d'ici, dans le Gard, vers Salindres. Avec l'aide de ces scientifiques donc, et d'une équipe parlementaire, le député écologiste a déposé en avril 2023 une première proposition de loi, un texte qui visait déjà à interdire la fabrication et la commercialisation de ces produits avec des PFAS. Nicolas Thierry, donc le nom du député, s'est dit qu'il n'allait pas tout de suite entrer dans le travail parlementaire. Donc un peu de stratégie était nécessaire parce qu'il savait que le sujet était méconnu et qu'il y avait en face de eux de forts lobbies industriels, puissants et organisés. De peur donc de se faire balayer, cette petite équipe a opté pour une autre stratégie visant à faire monter le sujet dans le débat public. Un petit retour quand même en quelques points, c'est intéressant, ça peut donner aussi des exemples concrets pour la suite. La première étape, ça a été pour eux de mettre en scène l'omniprésence de ces PFAS avec des coups de com' assez réussis. D'ailleurs, en juillet 2023, 14 députés de ce groupe ont accepté de faire analyser leurs mèches de cheveux. Ils ont ainsi dévoilé les résultats lors d'une conférence de presse. Ils étaient tous contaminés. Marie-Charlotte Garin, élue du Rhône, était surtout celle dont les cheveux avaient le plus de molécules recherchées, 8 sur les 12 qui faisaient l'objet de ce test. Et cette députée vit justement au sud de Lyon, dans la vallée de la chimie, près des sites industriels de Arkema et d'Aikin. Un premier coup de com' donc est fonctionné, puisque suite à cela, ils ont eu 40 ou 50 médias en quelques jours qui sont venus vers eux pour leur poser des questions. Et ils ont ensuite voulu continuer à ancrer le sujet dans les territoires de France en se lançant dans un vrai Tour de France en septembre 2023, avec toujours le même principe. Hein. Il était invité par un député dans sa circonscription, avec une 12 à 15 habitants volontaires qui se faisaient tester de tous âges, hommes et femmes, et les résultats ensuite rendus publics. Ce qui fait qu'entre septembre 2023 et mars 2024, 152 personnes ont été testées, et 94% d'entre elles avaient au moins un PFAS dans leur corps. Autant vous dire que si vous faites vous aussi cette démarche, il y a de fortes chances que vous soyez également rempli de ces petites molécules qui servent à faire par exemple les poils Tefal. Alors que de plus en plus de médias locaux couvraient ces campagnes de tests, les réseaux sociaux ont pris le relais. Les enquêtes de médias d'envergure se sont multipliées, hein, Vert de Rage, Complément d'enquête, le journal Le Monde. Et ainsi, la France a réalisé en quelques mois l'ampleur de cette pollution généralisée. C'est le porte-parole de l'association Génération Future qui le rappelle, François Veillerette. Et donc ensuite seulement, les débats ont pu commencer à l'Assemblée nationale. Ça a été le 4 avril 2024, avec une niche parlementaire, là aussi, les députés écologistes ont décidé de placer cette proposition de loi en première position, puisqu'il y a plusieurs sujets qu'ils peuvent amener. Une bataille assez rude, puisque le gouvernement était alors représenté par le ministre de l'Industrie, Roland Lescure, s'est opposé au texte en dénonçant une proposition de loi qui mettrait en danger le marché unique européen, puisqu'il demandait une législation qui s'appliquerait en France et qui serait inefficace en interdisant les substances d'PFAS plutôt que les usages dangereux. C'est d'ailleurs encore le même type d'argument qu'on peut entendre aujourd'hui avec certains députés qui vont contre cette loi pour soutenir le marché économique national, en expliquant que ça ferait des distorsions de concurrence notamment, puisque dans d'autres pays, cette législation n'existe pas. Les parlementaires se sont en outre alliés dès le début pour exclure justement les ustensiles de cuisine du champ du texte de loi, ce qui entraînait par exemple la disparition de 1800 emplois directs. C'était Pierre Vatin, un député LR de l'Oise, qui avait repris cet argument, déjà entendu la veille d'ailleurs, puisque le groupe industriel SEB, avec les usines de poils anti-adhésifs Tefal, avait organisé une manif devant l'Assemblée nationale. Ils avaient affrété des bus et payé tout leur personnel pour venir défendre leurs emplois, les patrons et les ouvriers unis dans cette lutte. Pourtant, les ouvriers, a priori, sont en première loge aussi de la pollution. Donc finalement, suite à ça, un amendement qui exclut les ustensiles de cuisine de la proposition de loi a été adopté. Mais pour tout ce qui est le reste du texte, qui est quand même très important, il a été adopté à l'unanimité. 186 voix exprimées, avec les abstentions des groupes LR et du Rassemblement National. En plus donc de l'interdiction des produits qui contiennent des PFAS dans les secteurs des produits cosmétiques, le FART pour les sports de glisse, sur les skis et les surfs, ou les textiles d'habillement, le texte a consacré une obligation de contrôler la présence de ces substances dans l'eau potable, car c'est le deuxième gros scandale d'PFAS, ainsi que la mise en place d'une taxe qui viserait les industriels qui en rejettent dans l'environnement. Le 30 mai dernier, donc, le Sénat a aussi adopté à l'unanimité ce texte. Les ustensiles de cuisine n'ont pas pu être réintroduits dans la proposition de loi. Donc pour l'instant, ils sont toujours hors du coup. Et c'est donc aujourd'hui une deuxième lecture à l'Assemblée nationale qui permettra ou non l'adoption définitive du texte. Pour être validé, c'est important de le noter, il doit être voté dans les mêmes termes qu'au Sénat. Autrement dit, aucun amendement ne doit être adopté. Toute modification, un simple amendement accepté, même une virgule ou déplacer un mot, renverrait la proposition de loi au Sénat. Et le groupe écologiste n'aura pas le poids politique et la possibilité de réinscrire le texte à l'ordre du jour. À vous, son porte-parole. Cela dit, l'espoir reste de mise hein, pour ceux qui poussent cette proposition de loi, notamment Cyrielle Chatelain. Elle dit « Il faut toujours rester prudent, mais j'ai l'impression qu'on a trouvé un large consensus. » En effet, le gouvernement, par la voix de sa ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher, s'est dit favorable à l'adoption du texte. Et vu que c'est eux qui décident si oui ou non les amendements vont être pris en compte, eh bien, a priori, c'est plutôt bien parti. Seuls quelques députés, notamment ceux du Rassemblement national, ont déposé des amendements, ce qui laisse craindre une éventuelle entrave. Et d'ailleurs, on peut noter que la militante Camille Etienne a affirmé sur Instagram avoir croisé, il y a 2 jours, le responsable communication de Tefal prenant un café avec un député du groupe d'extrême droite. Je suis allé faire un tour donc, sur la chaîne de l'Assemblée nationale ce matin pour écouter un petit peu. Effectivement, il y a des amendements déposés par des Républicains juste sur la place du verbe dans la phrase, des choses comme ça. Ils sont tous rejetés, heureusement, mais on voit bien que ce travail d'entrave et fait le jeu. Et d'ailleurs, j'ai choisi de vous passer une petite intervention à ce sujet.
Merci Monsieur le Président. Donc là, effectivement, nous avons un amendement absolument crucial puisqu'il s'agit de déplacer certains mots dans la phrase pour la rendre, je cite, plus fluide. Il y en a d'autres amendements hein, qui arrivent pour alléger les formulations, pour ajouter un petit « et » absolument nécessaire. Il y a même des amendements qui font semblant d'être mieux disant. Et je voulais juste prendre la parole pour que ceux qui nous écoutent comprennent ce que sont en train de faire là certains collègues à droite. En fait, leur objectif, c'est d'obtenir une modification, même absolument ridicule, on l'a compris, de ce texte, parce que du coup, ça l'obligerait à retourner au Sénat pour y être à nouveau discuté, avant de revenir à l'Assemblée nationale, peut-être quand, on ne sait pas. Bref, il s'agit de gagner du temps, c'est le fameux courage, fuyons, gagner du temps donc et ne surtout rien acter aujourd'hui qui contraindrait l'industrie et qui protégerait notre ressource en eau, par exemple, notre santé d'une manière générale. Il s'agit de gagner du temps pour des intérêts privés, industriels et financiers, au mépris de la santé de tous, et c'est inacceptable.
Voilà, petite prise de parole d'une députée insoumise sur ce sujet. Les débats continuent donc. On saura plus tard dans la journée si la loi a été ou non adoptée. À Montpellier, aujourd'hui, une centaine de personnes s'est réunie devant la préfecture de l'Hérault. Mercredi 19 février, pour réclamer la libération du militant marxiste pro-palestinien Georges Abdallah. Ce militant est détenu en France depuis 40 ans. Hier, donc, une centaine de personnes se sont réunies pour réclamer la libération du plus vieux prisonnier politique d'Europe. Ce militant donc libanais et pro-palestinien, marxiste et pro-palestinien, Georges Ibrahim Abdallah, qui est enfermé depuis 40 ans, aurait dû être libéré le 6 décembre dernier, mais le parquet en a décidé autrement. Le délibéré devait donc être rendu aujourd'hui. Soit il est libéré et on célèbre la victoire, soit il reste enfermé et on continue à résumer un militant au micro. Dans un contexte de guerre au Liban, en 1979, Georges Ibrahim Abdallah a confondé en 1979 donc, l'organisation des fractions armées libanaises, un groupe d'obédience marxiste. Il a été envoyé en France pour soutenir la résistance palestinienne, arrêté en 1984 avec des faux papiers. 3 ans plus tard, il sera condamné à perpétuité pour complicité dans l'assassinat de 2 diplomates, un Américain et un Israélien. Il est libérable depuis 1999, mais la France a refusé ses 11 premières demandes de libération sur le fond d'une ingérence américaine et israélienne, au motif qu'il n'aurait jamais émis de regrets vis-à-vis des crimes, de ces crimes qu'il a d'ailleurs toujours niés, donc s'il les nie, ne peut pas émettre de regrets. L'une de ces demandes avait été acceptée en 2013, sous réserve donc qu'il fasse l'objet d'un arrêté d'expulsion, mais le ministre de l'Intérieur de l'époque, un certain Manuel Valls, n'avait pas voulu la mettre en œuvre. Toujours du côté des prisonniers politiques d'ailleurs à ce rassemblement, Claude, qui est président de l'association Kanak Seini Ney, a dénoncé l'enfermement de militants kanaks qui luttent contre l'impérialisme, créant donc un pont avec le sort de Georges Abdallah. Cela fait 8 mois que 7 de nos militants indépendantistes sont emprisonnés en France métropolitaine à la suite de la révolte du printemps dernier, à 17 000 km de leur famille. Voilà le sort que la France réserve aux militants anticoloniaux. L'association CNIEI organise régulièrement des temps d'écriture de lettres à ses prisonniers d'ailleurs, qui pour l'heure n'ont quant à eux pas de perspective de libération. C'est un article relaté dans les colonnes du journal Lepoint.net et il y a des liens justement vers les collectifs de soutien à ces prisonniers kanakis. L'Alfacteur, la poste, service public à l'agonie, c'est ainsi que titre le journal L'Humanité aujourd'hui. Précarisation, fermeture de guichets, distribution de courriers à journée, dégradation des conditions de travail, un malaise énorme et croissant, toujours à la poste. C'est la Cour des comptes qui a publié un rapport ce 17 février qui enjoint, pourtant malgré tous ces signaux d'alarme, l'opérateur à accélérer la cadence dans la baisse des coûts au nom de la rentabilité. Les véritables enseignements donc, de ces rapports livrés par la Cour des comptes ne sont pas forcément là où on le croit. Ainsi, si on lit l'analyse de la trajectoire financière de la poste pour les exercices de 2019 à 2023, qui a été publié ce lundi, eh bien derrière les chiffres et constats alarmistes, se dessine une certaine vision du service public, donc par la Cour des comptes, qui a le mérite de jeter une lumière assez crue sur l'origine de toutes les alertes qui émanent et qui émargent partout en France de la part des syndicats sur les conditions de travail désastreuses des agents de la Poste. On lit donc dans le rapport de la Cour des comptes que la Poste subit une dégradation de sa situation financière. La faute, donc, à une rentabilité insuffisante de ses activités de diversification, notamment dans la logistique et la banque-assurance. Mais aussi, et a priori, il faut croire que la Cour des comptes assume la faible rentabilité de ses missions de service public. Et oui, Moret, le service public, a priori, c'est pas très rentable. Notamment, les missions liées à la distribution du courrier, qui seraient frappées par une baisse marquée et inexorable, tout comme la fréquentation, d'ailleurs, des bureaux de poste. Cela serait notamment rendu visible par la chute du résultat net du groupe. On est passé de 1,2 milliard d'euros pour 2022 à la moitié moins en 2023, 514 millions d'euros. Tout ça ne plaît pas à la Cour des comptes, donc qui souhaite que la barre soit redressée. Notamment dans le viseur de la Cour des comptes, la fréquence de la distribution du courrier. Actuellement, c'est 6 jours sur 7. Et les bureaux de poste, la branche service courrier colis, qui ne représente plus que 15% du chiffre d'affaires alors qu'il était de 50% en 2010. En effet, de très nombreux acteurs privés sont aussi sur le marché maintenant. Tout cela donc coûterait et pèserait sur la santé des finances publiques puisque l'État est actionnaire du groupe La Poste à hauteur de 34% aux côtés de la Caisse des dépôts et des consignations qui a le reste des actions. À en croire les syndicats, la nouvelle orientation qui est préconisée ainsi est pourtant déjà bien à l'œuvre, puisqu'elle résulte du plan 2021-2030 qui a été mis en place pour ajuster la stratégie de l'entreprise par Philippe Wahl, le PDG de La Poste. Si la Cour des comptes juge que c'est donc pas encore suffisamment en termes d'efforts, sur le terrain pourtant les secousses et les retombées humaines sont-elles déjà redoutables pour les salariés et les usagers. En décembre, quelques 20 000 intérimaires qui enchaînaient des missions parfois depuis plus de 10 ans ont ainsi vu leur contrat brutalement interrompu. C'est Laetitia Gomez, secrétaire générale de la CGT Intérim, qui pointe cela. La Poste a cette particularité d'être un incubateur à précarisation de l'emploi, que ce soit dans les agences de distribution ou les dépôts. Il y a tellement de formes d'emploi que des dizaines de contrats différents se côtoient au sein d'un même site. La direction de La Poste avait été interrogée en décembre sur cette affaire de licenciement des intérimaires et elle avait fait valoir des recrutements supplémentaires qu'elle a arrivé 1000 facteurs en CDI sur le dernier trimestre 2024 qui se rajouteront aux 2300 recrutements externes de facteurs en CDI réalisés à la fin septembre ainsi qu'aux 3150 distributeurs de Mediapost qui ont été intégrés au mois de février dernier. Pour Catherine Stollars, qui est la pilote des activités poste à la Fédération CGT, le compte pourtant n'y est pas. Le départ des intérimaires est aussi une catastrophe, dit-elle, pour tous ceux qui restent, parce qu'ils doivent maintenant assurer toute l'activité sans ce renfort qui était structurel. Ainsi, dans la Loire, le constat est partagé par les facteurs de la plateforme courrier du site de Chambaillard, on est à Bohain sur Lignon, et ceux du centre du courrier de Riorges, qui sont en grève depuis plus de 2 semaines. déjà sous pression. Les premiers ont appris à la fin du mois de janvier la suppression de 3 tournées, ainsi que la fermeture d'un guichet professionnel dans le centre de distribution, qui était jugé trop peu fréquenté. Cette réorganisation décidée sur un coin de table, sans en référer aux instances du personnel, selon le secrétaire général de la Loire, Serge Ronze, décrit des salariés à bout, régulièrement en larmes, pour lesquels l'inspection du travail aurait d'ailleurs été alertée. Une détresse donc des salariés qui mêle épuisement, sentiment de mépris, mais aussi perte de sens. On nous demande, par exemple, désormais de laisser dans les casiers le courrier qui est jugé peu important, faute de bras. En fait, la Poste nous demande de mal faire notre travail et de ne plus remplir correctement nos missions, explique ce syndicaliste. Peut-être tout cela pour mieux en justifier la suppression.
Ah ouais, carrément.
Qu'est-ce qu'il fout en milieu rural aussi ?
On va parler mode un petit peu, et d'ailleurs ça rejoint les problématiques de livraison de colis. Une loi contre la fast fashion verra-t-elle enfin le jour ? Le 10 février dernier, les sénateurs apprenaient qu'ils pourraient enfin discuter de cette proposition de loi lors de la séance du 26 mars prochain. Cette proposition de loi a été déjà adoptée à l'Assemblée nationale en mars 2024. Mais 4 jours plus tard, donc le 14 février, lors de la publication de l'agenda du Sénat, aucune trace de cette proposition de loi, ni au 26 mars, ni avant, ni après. Un an après l'adoption de la loi à l'unanimité à l'Assemblée nationale, nous en voici au statu quo, déploré d'ailleurs sur le LinkedIn Anne-Cécile Violent, une députée Horizon, rapporteure de ce texte. Elle a ainsi rappelé que l'industrie textile mondialisée était responsable de plus de 10% des émissions de gaz à effet de serre, soit ça fait plus que tout le trafic aérien et tout le trafic maritime réunis quand même. La proposition de loi prévoit notamment de pénaliser les produits extrêmement polluants, de récompenser les entreprises vertueuses et d'interdire aussi la publicité pour l'ultra fast fashion sur tous les supports. Les acteurs de la filière française de l'habillement ont eux aussi évidemment fait part de leur déception, voire de leur colère que cette loi ne soit toujours pas discutée. Et ils rappellent que la mode ultra express a encore progressé de 18% sur le marché français en 2024, en atteignant 6% des ventes totales d'habillement. Et ça représente un quart des ventes en ligne, c'est énorme. Il est urgent d'agir, ce sont les mots de François-Marie Gros, délégué général de la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Ce report sinédié de l'examen du texte interroge d'autant plus les acteurs de la filière que Christophe Castaner, ancien ministre de l'Intérieur jusqu'à 2020, a récemment été embauché par la firme chinoise Shein, en tant que conseiller au sein de son comité de responsabilité sociétale des entreprises. François Bayrou, Éric Lombard, est-ce l'influence de Christophe Castaner qui retarde l'examen de cette loi cruciale ? Demande sans embâge Julia Faure, qui est cofondatrice de la marque éco-responsable Loom et présidente de l'ONG En Mode Climat. Elle cite donc le Premier ministre et le ministre de l'Économie et leurs éventuelles prises d'intérêt dans ce dossier chaud.
Alors, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure que c'est un coup de fantomas.
Des câbles internet encore plus pour pouvoir plus traîner sur les sites de vidéos débiles et puis commander encore des fringues pas chères, c'est génial. Meta, anciennement Facebook, veut en effet poser un câble sous-marin de 50 000 km. Ça en ferait le câble le plus long du monde. La société de Mark Zuckerberg a annoncé ce mardi un projet pharaonique qui vise à augmenter la connectivité entre les 5 continents. C'est donc la suite des impacts concrets du numérique qui n'a de dématérialisé que le nom. Meta souhaite déployer un câble sous-marin reliant donc 5 continents, je vous l'ai dit, sur plus de 50 000 km. Il a annoncé ça d'ailleurs dans une note de blog. Ça s'appelle le projet Waterworth. Le dispositif partira de la côte est américaine pour aller au Brésil, puis en face en Afrique du Sud, en Inde et en Australie, avant de rejoindre la côte ouest des États-Unis. Ça en ferait donc le plus long câble sous-marin du monde, plus long même que la circonférence du globe. Meta justifie cet investissement pluriannuel de plusieurs milliards de dollars pour apporter une connectivité de pointe aux États-Unis, à l'Inde, au Brésil, à l'Afrique du Sud et à d'autres régions. Des infrastructures critiques, ces câbles sous-marins en effet assurent la quasi-totalité des communications numériques mondiales. Hein, les satellites, c'est plutôt pour finir tout ça, finir le travail et aller sur les smartphones, mais ce sont les câbles qui alimentent les énormes serveurs présents un peu partout et qui relient aussi les data centers. Ils serpentent sous les mers, il y en a 450 environ actuellement installés dans le monde, ce qui fait quand même une longueur de 1,2 million de kilomètres cumulés selon un rapport du groupe de réflexion américain CSIS, publié au mois d'août dernier. Si, selon des chiffres de 2021, 4 sociétés se partageaient jusqu'alors la quasi-totalité du marché, l'américain Subcom, le français Alcatel Submarine Networks, ASN, le japonais c'est Nippon Electric Company, et du côté chinois HMN Technology. Et bien maintenant, donc, les géants du numérique, comme Meta, vont développer leurs propres infrastructures face à l'enjeu économique énorme que représentent ces câbles, et aussi leur degré hautement dangereux et hautement stratégique. En effet, ces infrastructures sont donc au fond des océans et régulièrement endommagées. Ce sont des câbles qui ne sont pas vraiment très gros. Ça peut être des éléments naturels comme des éboulements sous-marins ou des tsunamis, mais aussi les ancres des bateaux. Et d'ailleurs, ils peuvent aussi faire l'objet de sabotages volontaires ou de tentatives d'espionnage. On se rappelle qu'à la fin 2024, 2 câbles télécoms avaient été sectionnés en pleine mer Baltique à quelques heures d'intervalle. Plusieurs États voisins ont parlé d'un sabotage russe et d'une guerre hybride. Au début de cette année 2025, Taïwan s'est alarmé des attaques clandestines aussi sur ses câbles sous-marins. Il suspecte des agissements de cargos chinois et russes dans ses sectionnements de câbles. Avec le développement rapide de l'intelligence artificielle et les modèles d'IA générative, particulièrement gourmands en ressources, je vous rappelle qu'une toute recherche avec IA, ça coûte à peu près, genre ChatGPT par exemple, ça consomme 10 fois plus de ressources et émet 10 fois plus de CO2 qu'une recherche Google, qui est déjà, elle, pas très vertueuse. Et bien, avec donc ce développement de l'IA, le trafic numérique mondial devrait continuer de grimper dans les années à venir. Avec ce projet, donc, Meta veut contrôler la diffusion de ses outils numériques.
Audi, Panem, quid meliora. Ça veut rien dire, mais je trouve que ça boucle bien.
Ouais, on va boucler avec de la glace qui fond, toujours. Des glaciers des Alpes et des Pyrénées ont perdu en 25 ans 40% de leur volume. Ces chiffres ont quelque chose de terrifiant. Depuis l'an 2000, les glaciers de la planète, en général, ont perdu 5% de leur volume initial. Ça fait 273 milliards de tonnes de glace qui disparaissent chaque année, qui deviennent donc de l'eau liquide, l'équivalent de 3 piscines olympiques qui fondent chaque seconde. Ça, c'est le chiffre mondial. Et cette étude a été réalisée par le consortium international Glambi, avec des chercheurs du CNRS, du CNES aussi, le Centre National d'Études Spatiales, puisque les images satellites sont assez cruciales pour cela, l'Institut de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement, l'INRAE, et l'IRD, l'Institut de Recherche pour le Développement, tous français donc. Les chiffres ont été publiés ce 19 février, et les résultats confirment un record de perte de masse glaciaire pour les années 2022 et 2023, et je vous ai parlé de 5% du volume global sur la planète, mais par contre de 40% pour les nôtres, car les Alpes et les Pyrénées. Donc en France, on est en tête de ce podium, le podium des régions du monde où la perte relative de glace est la plus importante. 25 dernières années, ces deux chaînes de montagne ont perdu 40% de leur volume de glaciers. Les auteurs de l'étude prévoient d'actualiser leurs données tous les 2 ans. Ces résultats notamment serviront de base précieuse pour le prochain rapport du GIEC qui est attendu pour 2029. En ce début d'année, le rapport du consortium arrive en pleine année justement de la protection internationale des glaciers décrétée par l'ONU. Mais une question demeure, les moyens seront-ils à la hauteur des ambitions? Y aura-t-il même tout simplement des moyens? Ou est-ce qu'on sera juste occupé par organiser les Jeux Olympiques d'hiver de 2030?
Il y a de quoi se vendre la gueule, non?
C'est là-dessus qu'on se quitte les amis, 13h quasiment tout pile sur les ondes si vous nous écoutez en direct, ou 20h si vous écoutez la rediffusion du soir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, d'ici là, portez-vous bien.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Oh, mais que se passe-t-il ? Mais que se passe-t-il ? Oh, mais qu'est-ce qui se passe ?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.